l'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître, sinon avec notre propre connaissance?
La philosophie n'est pas un ustensile.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Mercredi 8 janvier 2014, H comme Homo historicus par Christophe Charles. Les historiens, mais aussi tous ceux qui réfléchissent sur le cours de l'histoire, ont fréquemment recours à la catégorie commode et apparemment claire de modernité, conception d'un temps historique orienté vers un sens en général positif, mais aussi, de plus en plus depuis plusieurs décennies, anxiogène. Cette représentation du temps historique a elle aussi une histoire. Sa genèse et son imposition de plus en plus large dans l'opinion savante ou non sont passées par des phases distinctes qu'on s'efforcera de retracer et d'expliquer. Christophe Charles, professeur à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France, est connu pour ses travaux sur les intellectuels, les élites, l'histoire sociale et culturelle comparée de l'Europe. Il prépare actuellement une histoire culturelle de l'Europe au 19e siècle et dirige avec elle Jean-Pierre une histoire de la vie intellectuelle en France 19e-21e siècle à paraître aux éditions du Seuil. Il vous propose ce 8e rendez-vous de la 5e saison de l'Agora des Savoirs.
J'ai comme genre, mais à côté du genre, le sexe. Voilà une invitation bien inhabituelle. Le genre est finalement une vieille idée, remise au goût du jour dans les années 70 dans les pays anglo-saxons, au point que les études de genre, les gender studies, ont proliféré depuis, devenant même une catégorie dans les recherches de sciences politiques ou de sociologie, avec beaucoup de thèses, d'articles savants qui se recommandent de ce terme. Il y a même des financements quand on fait des gender studies. Pourtant, ce mot de genre reste problématique pour deux raisons. La première, c'est qu'il désigne à la fois une catégorie d'ensemble, le genre humain, et des catégories différenciées, le genre masculin, le genre féminin. Je n'en veux pour preuve de cette incertitude que la plupart des thèses de genre où j'ai été membre du jury étaient la plupart du temps consacrées aux femmes, au féminisme et au combat des femmes. De sorte que c'était plutôt des thèses féministes sous le couvert des études de genre. Mais surtout, et j'allais dire peut-être essentiellement, le genre appartient à une histoire qui est beaucoup plus banale. Il appartient au vocabulaire grammatical. Genre masculin ou féminin, nous l'avons tous appris à l'école, c'est une dénomination qui semblerait n'avoir plus rien à voir avec le sexe. Après tout, le genre de nos mots semble être une désignation peut-être arbitraire pour parler, pour écrire, pour penser, même si, on le sait, cet arbitraire n'est pas dénué de sens. Qu'un objet soit de genre masculin ou de genre féminin nourrit des tas de représentations non innocentes. Mais la comparaison avec les langues étrangères laisse ouverte l'interrogation sur cet usage du genre. Outre le fait que certaines langues, comme l'anglais, ont un troisième genre, le neutre, qui n'existe pas en français, la variabilité du masculin et du féminin suivant les langues ne cesse de nous interroger, voire même de nous intriguer. Pourquoi les Allemands disent-ils « la soleil et le lune » chose impensable dans notre langue française. Et pourtant, dans notre langue française, nous avons aussi quelques surprises. J'ai vérifié pourquoi « vigie », « estafette », « sentinelle », « ordonnance », issus du vocabulaire très masculin, j'allais dire machiste de l'armée, sont des mots féminins. Curiosité que le dictionnaire présente presque comme une aberration, heureusement exceptionnelle. Bref, le genre redevient plus une question qu'il n'est une solution. Alors, à côté du genre, pour reprendre la phrase de notre conférencière de ce soir, faisons retour au sexe. comme le terme qui nous permettrait peut-être de mieux comprendre notre monde. Mais ici, une difficulté redoutable nous attend. Le sexe, ou plutôt la différence sexuée dans notre espèce, semble être, que dis-je, est une dualité naturelle indépassable. Que l'on soit homme ou femme, révèle une différence non pas voulue ou imaginée, mais une différence réelle et je dirais indéniable. Alors comment réfléchir à une réalité qui semble indépassable, puisque toutes les sociétés ont dû s'organiser, soit à partir du sexe, soit avec la différence fondamentale des sexes. En ce sens, le sexe redevenu une catégorie naturelle pourrait devenir une non-question. Tout au plus pourrait-on broder sur ce thème les mille variations que les civilisations, les religions, la poésie, les systèmes familiaux ont fabriqués. Peut-on dépasser ce constat que la différence des sexes, parce que née de la nature, s'imposerait désormais sans réserve à notre réflexion et plus encore à notre action? Ce dépassement, dans la mémoire collective moderne, a pris la forme d'une dénonciation de la fausse naturalité de la division des sexes et de la reconstitution d'une histoire qui fait que, pour reprendre Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Cette leçon hante encore notre conscience quand nous ne voulons pas en rester au constat naturaliste. Geneviève Fraisse a une autre ambition. C'est de construire l'historicité, l'histoire, on pourrait presque dire, des sexes dans notre société. C'est-à-dire de préparer la possibilité de penser aujourd'hui en quoi les sexes sont à la fois unis et différents. Dans une histoire complexe, faite de discours et d'actions, d'émancipation et de domination, d'avancée et de recul, dans le grand mouvement démocratique qui est à l'œuvre depuis deux siècles dans nos sociétés. Voilà ce que nous attendons à écouter de la part d'une spécialiste, parce que j'ai comme genre, mais aussi j'ai comme Geneviève Fraisse. Si j'ose dire, fille de professeur à la Sorbonne, elle hérite finalement, je ne sais pas si c'est génétique, mais de quelques habitudes certainement de pensée. Elle est philosophe, elle enseigne en sciences politiques, elle est directrice de recherche au CNRS, a beaucoup écrit et travaillé sur ce thème qui nous réunit ce soir, à preuve une liste de productions dont je ne vous infligerai pas toutes les dénominations, mais quand même parmi les 20 titres qu'elle a déjà signés, plus des titres collectifs, je citerai dans l'ordre de la proximité, d'abord en 2012, La fabrique du féminisme, la même année Le passager clandestin. En 2010, alors je l'ai là, À côté du genre, sexe et philosophie de l'égalité, gros ouvrage difficile à lire, je dois dire, dont l'écriture est assez difficile, alors que d'autres ouvrages sont plus simples, et je pense, c'est pas parce qu'il est plus petit, mais celui-là qui est beaucoup plus ancien, hein, de 2000, qui est Les deux gouvernements, la famille et la cité. Alors évidemment, pour moi, c'est plus facile, hein, parce que c'est Aristote et Jean-Jacques Rousseau, donc c'est les choses que je maîtrise un peu mieux. Et en effet, l'idée que le gouvernement de la cité, c'est ce par quoi commence Aristote, ne peut pas imiter le gouvernement de la famille, est un fondement aujourd'hui pratiquement universel de l'organisation de nos sociétés politiques. Je citerai enfin, en 2002, la participation à un gros dictionnaire, une histoire des femmes en Occident, dont vous avez...
90.
Ah, alors c'est une réédition de 2002.
C'est le passage en poche.
Le passage en poche, voilà. Je cite ce qui est le plus utile d'un point de vue économique.
Ça, c'est sûr.
Donc, c'était le volume 4 sur le 19e siècle. Et je sais, c'est sous la direction de Georges Duby et de Michel Perrault, donc deux personnages qui n'est pas besoin de présenter. Et comme je viens de participer à un dictionnaire des femmes créatrices qui vient de sortir, que vous connaissez, je sais ce que représente le travail d'un dictionnaire, des entrées qu'il faut prévoir, organiser. Et donc c'est un énorme travail. Mais je serais infidèle à la présentation si je ne disais pas que Geneviève Fraisse n'est pas qu'une femme de lettres, comme on aurait dit au XVIIIe siècle, c'est aussi une femme d'action. Elle a été de 97 à 98 déléguée interministérielle aux droits des femmes et députée européenne de 1999 à 2004, je dois le dire, sur la liste gauche unitaire européenne. Elle en a tiré d'ailleurs une expérience avec un petit livre dont le titre est provocateur, « Touriste en démocratie », mais touriste averti quand même.
C'est que c'est une citation de Berlusconi.
Je sais bien. « Touriste en démocratie », chronique, ça c'est de vous, chronique d'une élue au Parlement européen. Je vous invite, le texte est en ligne, à le lire, c'est tout à fait intéressant. Alors, j'ai comme genre et j'ai comme Geneviève Fraisse, c'est avec mille plaisirs que nous allons vous écouter sur ce thème à côté du genre, le sexe. Je pense que nous tous, en partant ce soir, nous pourrons dire « nous connaissons la lettre G ». Je vous remercie.
Il s'en va. Merci, merci de cette multiple introduction. Je peux prendre les choses de plusieurs façons. D'abord, à côté du genre, qui était le titre d'abord d'un article fait il y a une dizaine d'années et qui a servi à ce recueil de 2010 du Bordelot, qui regroupe effectivement des travaux, lecture de la tradition philosophique avec la différence des sexes, la controverse des sexes, qui était un recueil, puis d'autres papiers. Ce qui est très étonnant quand ce livre est sorti, donc fin 2010, c'est que personne ne pouvait me dire que j'avais écrit un livre qui s'appelait « À côté du genre ». On me disait « ton livre contre le genre », « ton livre du côté du genre », « ton livre au côté du genre ». Mais le « à côté du genre » ne passait absolument pas. Comme si le fait d'ouvrir, en fait, une question, parce que c'est ça que je voulais avec ce titre, et le sous-titre dit bien que je n'abandonnerai pas le terme sexe, c'est pas que je veux me consacrer à ce terme contre le genre, mais c'est que je ne vais pas abandonner un mot du vocabulaire. On ne demande pas à une philosophe d'abandonner un mot du vocabulaire. Et dans les tendances actuelles, et j'en ai souffert pour des jeunes chercheuses que je peux voir venir près de moi, j'ai souffert pour elles de voir que dans certaines disciplines, elles ne pouvaient plus employer que le mot genre et n'avaient pas droit à d'autres termes. Ça va rechanger très vite, c'est déjà en train de se faire. Mais donc il y avait comme une sorte d'assignation ou une sorte d'obligation à utiliser le mot genre. Donc à côté du genre, c'est juste pour dire que ce terme, qu'on va appeler un concept dans une minute, ce terme est à la fois une solution et un problème. Donc en ce sens, c'est ce que j'appelle une promesse conceptuelle. Mais il faut quand même donc être, non pas sauter à pieds joints dessus ou dessous si on le prend comme un parapluie, mais il faut au contraire se dire que là s'ouvre quelque chose d'extrêmement important. Je vais vous donner deux citations pour commencer, de philosophes, l'une de Kant, l'autre de Deleuze. Kant: toute connaissance exige un concept, si imparfait ou si obscur qu'il puisse être. Mais le concept est toujours, quant à sa forme, quelque chose de général et qui sert de règle. Donc vous retenez bien la première partie de la citation. Toute connaissance exige un concept, d'un côté. Ça, c'était il y a 200 ans et un peu plus. Et puis, 200 ans plus tard, donc fin 20e siècle, Gilles Deleuze: le concept est le contour, la configuration, la constellation d'un événement à venir. Donc, entre ces deux citations qui représentent notre contemporanéité, celle à partir de laquelle j'ai pu penser ces questions-là depuis pas mal d'années, disons depuis la sortie de mes études de philosophie au début des années 70, ou même début d'enseignement de la philosophie, ça veut dire qu'il s'est passé la possibilité que des choses nouvelles soient pensables, mais pas n'importe comment. Il s'est trouvé aussi la possibilité à l'ère démocratique que soit ouverte de manière collective, c'est-à-dire politique, la question de l'égalité des sexes. Donc on va mettre ça ensemble. Il y a bien un croisement entre l'ère démocratique et la possibilité de penser cette question-là, qui va être la question du rapport, la question de l'égalité des sexes, qui va sous-entendre toutes les possibilités d'identifier différence, pas différence, dualité, pas dualité, sexe, genre, rapports sociaux de sexe, queer, etc., etc. Mais j'ai voulu d'abord vous donner ces deux citations, celle de Kant et de Deleuze, parce que l'une dit « il faut un concept pour la connaissance » et l'autre dit « le concept renvoie à l'événement à venir ». On s'inscrit donc bien dans un temps historique donné, et c'est celui que j'appelle l'ère démocratique, par rapport à cet objet de ce soir qui est le mot genre. Je dis le mot genre. La première chose que j'ai réalisée en faisant des études de philosophie, et je crois avoir vérifié récemment dans une autre ville de France où je me trouvais et où il y avait des jeunes lycéens que cela n'a pas encore changé, c'est que dans les manuels de philosophie d'aujourd'hui, comme ceux de ma jeunesse et précédemment, il n'y a pas de philosophème qui concerne cette question-là, sexe-genre. Il n'y a pas de chapitre, donc il n'y aurait pas, je passe au conditionnel, d'objet philosophique. Le seul objet philosophique qu'on va trouver, et c'est de là que je repars quand j'écris ce petit livre de la collection PUF Philosophie, ces petits livres comme des petits que sais-je, c'est il y a un seul philosophème, c'est le philosophème amour. C'est la première chose. La deuxième chose, pour suivre Michel Foucault, c'est que quand on se met à lire les philosophes, si on s'épargne le fait de jouer la dénonciation et de critiquer leur sexisme ou leur misogynie, etc., etc., ça on peut le faire. Mais moi, ça m'a jamais, en tout cas, paru primordial. Ce qui apparaît, et je vais y revenir, ce qui apparaît, c'est qu'ils vont effectivement intervenir sur cette question-là, mais ça va être souvent... Donc ils vont parler, comme Michel Foucault dit qu'on parle sexe ou sexualité au XIXe siècle, alors qu'on a toujours donné une représentation un peu réprimée de cette chose, et pas seulement de cette chose, donc de ce discours au XIXe siècle. Chez les philosophes, on va le trouver dans des digressions, des notes en bas de page, etc. Donc j'avais tenté cette reconstruction. Alors, vous vous rendez bien compte que, quand je dis c'est une solution et un problème, ce qui apparaît d'abord, c'est que quelque chose s'est joué avec cette proposition conceptuelle, et se joue encore, et va se jouer, d'un événement à venir, comme une connaissance qui exige un concept, c'est que c'est une ouverture, c'est peut-être une rupture épistémologique, pour parler comme l'a été l'ancienne élève de Georges Canguilhem que j'ai été, avec l'héritage bachelardien, etc., est-ce que ça fait rupture dans la pensée d'introduire le mot genre? C'est toute la question qu'on va se poser, et on va prendre, disons, pas nécessairement seulement ce soir, mais de façon contemporaine, on va prendre le temps d'y répondre. C'est un peu polémique quand je dis cela, parce que cette façon de croire que ça fait réponse va nous introduire du côté de la question problème. Alors, disons, si c'est un nouveau terme, un nouveau mot, qui pourrait être un concept propre à une connaissance, et qui pourrait être un philosophème qui se traduirait par la reconnaissance d'un objet philosophique comme tel. Vous voyez que l'ambition est très grande. On ne va pas s'amuser à faire seulement des petites querelles idéologiques pour savoir si genre va absolument introduire l'homosexualité à l'école, dans la tête des élèves de première ES, ou pas. On est complètement loin de cette affaire. On va l'introduire, bien sûr, mais certainement pas penser que c'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas non plus, bien entendu, d'une théorie du genre, que d'une pensée catholique, d'une part, qui s'est exprimée beaucoup cet an dernier, à une réflexion ministérielle, gouvernementale, de l'autre, nous trouverons cette formule, théorie du genre, qui n'a aucun sens. Il n'y a pas de théorie du genre. Heureusement qu'un certain nombre de chercheurs et chercheuses comme moi prennent la parole un peu partout pour le dire. Nous sommes seulement dans l'idée du concept. et dans cette ambition quand même énorme de savoir si ça va devenir, et là on inventerait quelque chose de l'ordre de l'objet philosophique. Un mot sur l'émergence de ce concept, fin des années 60, États-Unis, question de transsexualité, question des transsexuels, et ce mot genre qui intervient parce qu'il fait référence à une réalité qui surgit dans l'espace médical avant de surgir, comme aujourd'hui, 30 ans plus tard, dans l'espace social, civil et politique. Il se trouve que j'ai été récemment amenée à faire un visa pour l'Inde et j'ai découvert, comme on est en train d'apprendre que ça se fait désormais en Allemagne, chez nos voisins, que sur ce visa, d'un côté, on me demandait ma religion, ce qui était quand même embêtant si on n'avait pas envie d'en avoir une. Et en revanche, du point de vue de la catégorie sexuelle, j'avais trois possibilités. Masculin, féminin et others. Donc, nous sommes en 2013. Ce mot-là est venu de là. C'est d'autant plus intéressant pour moi que je m'étais penchée sur l'origine du mot féminisme, qui, dans les dictionnaires, a en général été renvoyé à 1837 et à Charles Fourier, bien connu pour ses néologismes, penseur de l'utopie et bien plus que ça encore. Et ce qui était curieux, qui m'avait toujours surpris, c'est que l'année 1837, c'est l'année de la mort de Fourier. Donc, du coup, ça m'avait alertée, je m'étais dit, c'est bizarre. Et puis, continuant mes recherches, j'avais ouvert des tas de dictionnaires et découvert que le mot féminisme appartenait au langage médical, depuis le 19e siècle. C'est dans le langage médical, à la fin du Second Empire, que le terme féminisme est apparu. Pourquoi ? Donc, c'est intéressant, vous voyez que aussi bien le mot genre que le mot féminisme, c'est-à-dire ce qui touche à l'identité, l'identité au sens du semblable, la similitude, la différence au sens de quelque chose qui est distinct, et ce qui vient aussi après, c'est le rapport, c'est-à-dire la possibilité d'une égalité des sexes. J'ai insisté pour dire que je pense à partir de ces deux siècles d'histoire démocratique. C'est quand même intéressant de voir que ces mots-là sortent pour poser la question de la similitude et de l'égalité dans une société donnée. Que veut dire le mot féminisme dans le langage médical à la fin du 19e siècle ? Il y a une thèse qui s'appelle « Du féminisme et de l'infantilisme ». C'est les arrêts de développement chez des jeunes garçons atteints de maladies, et notamment de tuberculose. Ça veut dire que le féminisme serait ce qui, dans un sexe masculin, ferait féminin. Et quelques années plus tard, à peine, 1872, Alexandre Dumas fils, dans un petit ouvrage concernant la question du divorce, qui est un sujet brûlant tout le long du 19e siècle, entre son autorisation en 1792, son interdiction en 1816, sa réinstauration, mais seulement pour faute, en 1884. Donc c'est dans ce contexte-là qu'Alexandre Dumas fils écrit un petit opuscule dans lequel il met « Les féministes, passez-moi ce néologisme ». Et les féministes, c'est bien entendu, et ce, depuis la Révolution française, la femme qui fait l'homme. Donc le féminisme, c'est le sexe de l'un dans le sexe de l'autre. Ça veut dire que c'est une question existentielle. C'est pas juste pour blaguer, c'est pas juste pour dire qu'il faut pas de la confusion des sexes comme on nous répète à l'envi, mais pas seulement aujourd'hui avec le mariage pour tous et autres, mais depuis la Révolution française et depuis les lendemains de la Révolution française, la peur que l'identité démocratique, le semblable de la démocratie, fasse du désordre. J'allais employer une expression moins châtiée, sème le désordre et donc sème la panique chez ces penseurs de la démocratie, qui est oui à toutes les similitudes, mais pas à celles des sexes. Et c'est ce support qui nous amène à ces nouveaux vocables. Genre émerge dans la langue anglaise, et évidemment, on va comprendre rapidement pourquoi. Féminisme a émergé dans la langue française. Donc, moi, je suis frappée de voir que le langage médical joue un rôle très particulier dans cette affaire. Mais oublions cela et revenons à la question du concept. C'est une promesse conceptuelle. On en connaît d'autres, des promesses conceptuelles. Freud. Freud clairement exprime l'idée que le concept de libido doit supplanter le concept d'éros. Je vais très très vite. Mais vous le savez tous ici, le terme libido a été porté au baptême conceptuel par Sigmund Freud, donc pour rendre possible une réflexion sur cette énergie qu'est la libido, qui n'est pas seulement l'énergie sexuelle, qui est aussi l'énergie de la sublimation, bref, d'un tas de choses que nous apprend la psychanalyse. Mais ce qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est que Freud dit, on va pousser le terme de Eros, ça n'est plus possible. Or, on sait très bien, et ça c'est juste pour me soutenir le moral quand moi je garde le mot sexe, on sait très bien qu'il a perdu cette bataille, puisque le terme Eros n'a pas disparu du vocabulaire, ni même des représentations littéraires et philosophiques. Je disais dans le train en venant que le troisième volume de l'édition d'Emmanuel Lévinas, qui sort ces jours-ci, a comme titre Eros. Donc Eros a son droit de cité en termes de concept, et pas seulement de références culturelles et mythologiques, littéraires multiples. Donc, on est bien dans cette promesse conceptuelle. Alors maintenant, j'ai dit rapidement, il n'y a pas de théorie, c'est-à-dire il n'y a pas une représentation d'une proposition philosophique qui ferait théorie. En ce sens, c'est un terme qui est juste là pour devenir éventuellement un outil. Alors, un outil, c'est-à-dire quelque chose dont on va faire l'usage, un usage. Ça va s'avérer compliqué, mais quand on dit outil, ça veut dire qu'on va abandonner tout ce qui tente de sous-entendre ou de dire qu'avec le mot genre, une proposition précise est faite. Et en général, elle est rapportée, comme ça a été dans la bataille idéologique et non pas philosophique, ni même politique qu'on a eue ces dernières années avec la question d'Emmanuel. Ça va être pour dire qu'il y aurait là la proposition de dissoudre quoi ? La différence, la dualité, la sexualité, je ne sais pas. Mais c'est cette peur, donc d'une confusion, dont je vous ai déjà dit tout de suite, d'entrée de jeu, et je ne changerai pas d'avis, qu'elle a été produite là, pour des raisons liées aux politiques, c'est-à-dire facile de penser l'égalité sociale, facile de supprimer la hiérarchie de l'ancien régime, facile d'imaginer, même si on ne le fait pas tout de suite et même pas encore maintenant, l'abolition des classes sociales. Mais faut-il supprimer la différence des sexes dès la discussion avec Sénancourt dans son De l'amour, qui précède le De l'amour de Destutt de Tracy et de Stendhal? Il y a l'idée que l'amitié va remplacer l'amour si on supprime la différence. C'est là une inquiétude liée à une transformation des représentations politiques. Donc, quand je dis c'est un outil parce que ça part d'une critique qui est celle de ce terme sexe. Cette critique, on la connaît bien, elle a été rappelée tout à l'heure brièvement, en tout cas, et entendue, c'est que en langue anglaise, le mot sexe est effectivement plus biologique que dans la langue française, ou sexuel quant au rapport sexuel, mais il n'a pas cette multiplicité qu'il a dans notre langue, qui en fait aussi quasiment une abstraction. Le mot sexe n'est pas seulement le corps biologique, ni même seulement le rapport sexuel, ou la vie sexuelle, il est indexé de manière multiple, comme pouvant, comme Eros, avoir plusieurs possibilités de représentation. Si on passait à la langue allemande, on aurait encore là d'autres choses à voir, précisément pour la raison inverse, c'est qu'avec Geschlecht en allemand, on peut jouer de sexe et genre. Donc il y a effectivement à la fois ce qui vient de l'observation médicale de la transsexualité et ce qui vient de la critique féministe, pensant qu'il y avait un rabattage ou un écrasement systématique sur ce qui serait le biologique, c'est-à-dire le naturel. Donc ce qui va se passer, pour arriver à la question de la méthode et de l'outil, c'est cette idée, donc, qui est une idée épistémologique, qu'il faut peut-être un autre mot du vocabulaire. Et le mot genre va donc être approprié par les études des années 70-80 aux États-Unis, principalement bien sûr, pour proposer de sortir de cet écrasement sur la question du naturel et du biologique. Pour donc montrer quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, à savoir qu'il y a de la construction sociale dans l'affaire des sexes, des hommes, des femmes, entre choses, on sera encore le masculin, féminin. On va y venir. Donc à partir de là, il y a une représentation qui va se figer, ça c'est moi qui dis malheureusement, entre le sexe qui représenterait la question biologique et le genre qui représenterait la question sociale de la dualité sexuelle. Je suis farouchement opposée à cette partition. C'est cette partition qui fonctionne aujourd'hui, non pas comme proposition, comme théorie, mais comme support épistémologique, c'est-à-dire du non pas que penser qui serait la théorie, mais comment penser, avec quel modèle heuristique, et ce modèle resterait encore ce partage entre nature-culture ou biologie sociale. Et on aurait enfin deux termes pour utiliser d'un côté le sexe et de l'autre côté le genre. C'est ce qui explique que pour sortir de cette assignation, enfermement dans la question du biologique ou de la naturalisation, de la naturalité, là encore les mots n'ont pas grande importance, vous voyez ce que je désigne, c'est pour sortir de cet enfermement que le mot genre viendrait ouvrir les fenêtres et les portes et enfin permettre qu'on voit les choses comme construction sociale. C'est pourquoi je me permettrai de reprendre un tout petit peu l'introduction. Ce n'est pas seulement dans les sciences sociales que cette proposition de genre intervient, mais dans toute discipline possible, puisque ça serait un objet de pensée. Et malheureusement, ce qui se passe en ce moment est plutôt cet écrasement du point de vue de l'analyse de la construction sociale pour se débarrasser de la nature. Alors, ça pose évidemment toute une série de problèmes. On va dire que c'est positif et ça va apparaître comme un outil de travail. On va s'en servir pour sortir du côté études de femmes. Et j'étais d'autant plus d'accord avec mon introducteur que sous le mot genre aujourd'hui, on peut tout d'un coup tomber sur ce bon mot femme qu'on a employé en faisant l'histoire des femmes quand j'ai travaillé avec les historiennes dans les années 80-90. Et là, on a les oreilles qui sifflent. De la même façon, moi, je vous parle depuis le début d'un concept, d'un mot qui est au singulier et non pas au pluriel. Or, dès les années 80, je me souviens avoir sursauté en lisant Le Monde des Livres, Bible, comme on sait, surtout jadis, où il y avait un grand anthropologue qui parlait des genres. Je disais, mais attendez, zut, on fait quand même pas tout ce travail de passer par le genre pour revenir sur le 2, puisque ça veut faire du 1. Ça veut faire du 1 parce qu'il faut, si on veut que ça soit un objet ou un concept au sens philosophique, ça s'emploie au singulier parce que dessous, il y aura toutes les possibilités. Et aujourd'hui, on voit dans le désordre, et parfois dans la non-exigence, mais aussi parfois dans l'exigence, que ça va être les deux genres, ou bien le genre qui redevient tout simplement le neutre universel tranquille. On voulait que ça soit bien les hommes et les femmes, parce qu'on voulait sortir de l'histoire des femmes, ou des études femmes, et puis finalement on met genre. Est-ce qu'on met pour autant que ça toucherait les deux sexes, que ça ferait lien, ou disjonction, tout ce qu'on veut? mais qu'il s'agirait bien de définir un nouveau champ de pensée, en ce moment, c'est du désordre. Et on a intérêt, alors, à ce moment-là, à regarder de très près. Parce que, oui, quand je dis c'est un outil, ça fait effet de loupe. Ça fait effet de loupe, puisqu'on va pouvoir, grâce à ce nouveau mot, peut-être voir des choses qu'on ne voyait pas. Ça, c'est fort possible. Alors, et pas seulement de la construction sociale, mais ce que j'appelle aussi que le monde, on passe par ce que la sexuation fait au monde. Ne pas penser que c'est hors de l'histoire. Je vais y revenir puisque c'est mon objectif philosophique principal. L'historicité, ça a été gentiment dit tout à l'heure. Donc, on a... D'abord, ça fait effet de loupe, c'est sûr. Ça, et en ce sens, c'est donc une proposition de concept, quelque chose qui fonctionne, et ça fonctionne, ce mot genre fonctionne. Donc on va lui reconnaître cet effet. Mais je dirais, c'est comme un écran. Un écran, vous savez, ça sert à deux choses. Hein. On peut écrire sur un écran, ou on peut cacher des choses avec l'écran. Et c'est pour moi le sentiment que j'ai à l'heure actuelle avec ce mot genre. Je peux écrire sur l'écran, mais cet écran peut être un masque. Ouvrons toutes ces possibilités qui sont d'ordre épistémologique et méthodologique. Donc là, on est en train d'un petit peu se compliquer les choses. Et puis, on va évidemment se compliquer encore plus les choses quand on pose la question de cette bipartition sexe-genre. Nature-culture. Enfin, je citerai volontiers quelques grands penseurs d'aujourd'hui qui ont dit que c'était un schéma, et je l'entends depuis longtemps, périmé. On ne travaille plus avec cette opposition-là. Elle a été très opérationnelle au milieu du XXe siècle, mais peut-être elle ne l'est plus. Et pourquoi elle ne le serait plus dans le sujet qui m'amène ce soir ? Parce que si je dénonce la naturalité au nom de la construction sociale, je fais exister sans cesse ce que je dénonce. Je n'arrête pas de souligner ce dont je veux me séparer. Peut-être il faut poser la question autrement. Et c'est en ce sens que j'ai, je pense, travaillé pendant longtemps. C'est vrai que je travaille depuis très longtemps, c'est pour ça qu'il y a des livres. C'est-à-dire, ça fait quand même maintenant une petite... petite quarantaine d'années, ce qui a motivé à une époque de construction d'une recherche, c'était l'idée curieuse et très, très connue désormais que les féministes du début des années 70 disaient dans leur chanson que j'ai chantée « Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire ». Or, il y a un passé. Ça, c'est une première chose. Il y a un passé. Et la deuxième chose, qui est une expérience que j'ai faite continuellement et que je vous engage à faire, c'est de voir... Donc, on comprend, hein, je ne vais pas m'étendre sur le fait que la reconstruction du passé est importante. La reconstruction, la découverte, sans cesse et encore... qu'il y a de l'histoire, et que cette histoire est sexuée. Et que, non seulement elle est sexuée, mais que les sexes font l'histoire. Pas seulement parce que les femmes seraient actrices de l'histoire, on va retrouver les résistantes, on va retrouver ceci, on va retrouver cela, mais aussi que le fait que le monde, qu'il y a une sexuation du monde, est un opérateur de la construction des sociétés. Or, finalement, vous pouvez faire l'expérience qu'on en est encore fort loin de cette représentation. On en est fort loin. Chaque fois qu'il y a un débat sur une question de société, alors l'année dernière c'était le mariage pour tous, l'année d'avant c'était l'affaire du Sofitel, je parle de grands débats comme ça que tout le monde, pour lesquels tout le monde aura sans doute un avis, et en tout cas une sensibilité. Ce qui était important à chaque fois, c'est de, dans la violence de la confrontation ou des avis partagés, des opinions divergentes, c'est de montrer que ça n'appartient pas à l'histoire. Que cette affaire des sexes, du sexe, du genre, et à ce moment-là, tout d'un coup, je m'en fiche du mot que j'utilise. Ça ne fait pas histoire. Et c'est-à-dire que ce qui revient tout le temps, c'est qu'on est hors du temps, dès qu'on est dans cette question-là. Donc, on a beaucoup discuté de choses, nature ou culture. On a discuté cela sans cesse, mais en voulant dénaturaliser et seulement sociologiser, est-ce que ça va faire histoire ? Ce n'est pas sûr. Or, c'est ça, à mon sens, depuis que je travaille, le plus difficile. C'est de montrer qu'il y a de l'historicité. Je me souviens, il y a longtemps, un exemple autour d'un travail que j'avais fait pour une représentation théâtrale autour de Strindberg. On m'avait fait venir parce qu'on voulait que je discute avec les comédiens et les comédiennes de la violence à l'encontre de la question sexuée et sexuelle chez Strindberg. Et évidemment, la première possibilité était de parler de la misogynie de Strindberg, et puis de cette misogynie, en général, on va vous raconter qu'il y a un trauma d'enfance quelque part, etc. etc. Donc, biologie, j'en sais rien, nature, j'en sais rien, mais quelque chose qui soit de l'histoire individuelle et pas de l'histoire collective, sûrement. Et dans cet exemple, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, comme toujours dans ces cas-là, quand on a une occasion qui se présente, on se met à tout lire, et notamment, j'ai lu les milliers de pages, entre guillemets, autobiographiques de Strindberg. Et là, on commence à comprendre quelque chose de très intéressant, c'est qu'à travers l'histoire de la fin de la métaphysique, à travers la question démocratique, il mélange, c'est un grand philosophe finalement, il mélange la fin de la métaphysique, c'est-à-dire la disparition de Dieu. Et il le dit, Dieu n'est plus là. Et dans ce cas, ça change profondément la représentation de l'altérité. Ça change profondément la question de l'altérité, car la femme devient le grand autre. L'autre avec un grand A serait plus exact que le grand autre, là, sinon ça va m'entraîner dans des champs, des associations d'idées autres. C'est-à-dire que ça devient, l'altérité devient vraiment importante. Et cette altérité, c'est par la différence des sexes qu'elle se construit pour lui. Donc dans ce mélange entre la représentation très politique qu'a Strindberg de sa société, car il intervient de temps en temps dans cet univers, et l'idée de son rapport aux femmes, dont il ne nie pas que c'est bien intéressant quand ce sont des intellectuels, ça fait partie aussi de son histoire. Moi, ce que je découvre, c'est que pour aller parler dans un théâtre, à une troupe de théâtre de Strindberg, je vais passer par la grande question philosophique du XIXe siècle et par le grand débat politique du XIXe siècle aussi. Donc voilà un exemple où quelque chose de l'historicité est en jeu. Mais j'ai quitté ces discussions qu'on a donc en ce moment sur cette question du genre. Je les ai quittées, mais parce qu'elles sont finalement pas si récentes que cela. La lutte contre la représentation sociale énonçant l'inégalité des sexes ou l'impossibilité pour le sexe féminin de faire ceci ou cela, c'est une histoire plus ancienne. Et notamment, elle est extrêmement visible dans la reprise au XVIIe siècle de l'expression d'égalité des sexes, donc de l'idée d'une égalité des sexes. Elle revient en force au XVIIe siècle à partir de deux auteurs qui commencent à avoir un petit peu de surface littéraire aujourd'hui, qui sont de Marie de Gournay et Poulain de la Barre. Marie de Gournay, dans le premier tiers du XVIIe siècle, écrit un livre sur l'égalité des sexes, mais elle est encore très prise dans l'histoire de la comparaison, qui est le meilleur des deux, ce que l'histoire littéraire appelle la querelle des amis, et que moi j'ai reformulé à ma façon dans l'histoire de la pensée féministe comme la querelle, qui est donc ce qui précède la représentation du rapport entre les sexes avant l'idée d'égalité. Et si, j'ai dit tout à l'heure, l'égalité des sexes est bien entendu co-substantive avec l'ère démocratique, cette idée de l'égalité des sexes ressurgit très clairement au XVIIe siècle, et notamment donc avec le deuxième auteur que je viens de citer, Poulain de la Barre, qui en 1673 écrit un livre qui s'appelle « De l'égalité des sexes », qui est un texte philosophique d'une radicalité absolue, où il imagine et où il montre précisément que c'est la question du préjugé. La question du préjugé, c'est la même question que celle de la construction sociale. Cette question-là, elle court depuis longtemps. Alors, ça m'amène à peut-être ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler de, par rapport à tout cela, de mes propres recherches. D'abord, en soulignant que tout ça, c'est le cadre d'interrogation qui concerne ces quelques dernières décennies où s'est créé un champ d'intelligibilité, c'est-à-dire un champ nouveau. Tout d'abord, en recitant cette fameuse phrase qui a été donnée à nouveau tout à l'heure et à juste titre de Simone de Beauvoir, quand on dit « on ne naît pas femme, on le devient », ce qui est important, ce n'est pas le point de départ et le point d'arrivée, ce n'est pas le naître qui serait de la nature et le résultat du devenir qui sera la culture, c'est le verbe devenir. Tout est là-dedans, dans la question de cette transformation possible. Et c'est bien entendu ce qui nous renvoie à la question des identités sexuelles, mais pour une part seulement. Beaucoup d'autres choses, j'ai pris l'exemple de Strindberg là, je pourrais évidemment prendre tous les exemples liés à la philosophie politique et à l'égalité des sexes depuis 200 ans, mais la question du devenir, la question de ce qui rend possible, par exemple, l'auteur Strindberg, à partir d'éléments philosophiques et politiques, c'est plus intéressant que d'aller chercher dans la petite histoire du privé et du biographique d'un auteur. Ce qui me permet de dire aussi que la construction dont nous sommes, je dirais, victimes, ce mot-là est toujours désagréable à employer, mais qui est celle du privé et du public, qui est dans le livre « Les deux gouvernements, la famille et la cité », où j'ai voulu m'attaquer à cette représentation, là encore, extrêmement contraignante. Pas seulement comme nature et culture opérationnelle méthodologiquement et épistémologiquement au milieu du XXe siècle, mais qui a vraiment été construite par les penseurs du contrat social et notamment, bien évidemment, Jean-Jacques Rousseau, qui est cette construction dont on se gargarise, qui serait le privé, le public, les deux sphères, et comment on fait pour organiser ces deux sphères, etc. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui pourrait aussi nous libérer pour nous permettre de travailler, c'est que, bien sûr, alors j'avais appelé ce livre « Les deux gouvernements », c'est-à-dire « gouvernement domestique et gouvernement politique », c'était les débats sur Pax et parité à l'époque, c'est ça qui avait déclenché l'écriture de ce livre, à la fin des années 90, c'est que, au fond, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi ça renvoie à ma lutte contre le refus d'historicité. Jadis, dans les sociétés patriarcales classiques de l'Occident, donc de notre histoire française, précisément celle que je connais, bien sûr, du père au roi, la conséquence est bonne. C'est-à-dire qu'on a des représentations patriarcales comparatives entre la famille et le politique, avec la représentation patriarcale dans les deux cas. Mais la conséquence, elle est représentée dans le passage du père au roi. Si vous instituez le contrat social, et c'est très clair dans Rousseau, je le cite dans ce livre, dans le contrat social et encore plus dans les brouillons du contrat social qui sont publiés dans l'édition de la Pléiade, on s'aperçoit que Rousseau dit clairement « Je ne veux plus qu'on compare le gouvernement civil et le gouvernement de la famille. » Pourquoi il ne faut plus les comparer? C'est extrêmement simple, en fait, à comprendre. Si on instaure le contrat social, qui est une représentation qui va aller avec notre désir démocratique et avec l'idée que nous sommes des semblables. Nous déléguons individuellement notre volonté individuelle à la volonté générale. C'est une représentation horizontale des choses. Dans ce cas-là, Est-ce qu'on peut toujours comparer la famille à ce qui va se passer dans ce gouvernement civil, donc politique? Ça pose un problème. Parce que si jamais, du gouvernement civil et politique au gouvernement domestique, la conséquence était bonne, on allait faire rentrer l'égalité dans la famille. Et ça, il n'en est pas question. Ni pour Jean-Jacques Rousseau, ni pour Alexis de Tocqueville quelques décennies plus tard. Je les cite tous les deux parce qu'ils sont particulièrement lucides. Ils ont très bien compris qu'il fallait clairement dire qu'on ne comparerait plus les choses. Parce que si on continuait à comparer, alors l'égalité pouvait rentrer dans l'espace privé. Nous discutons encore de cela quand nous parlons de l'affaire du Sofitel, par exemple. Je fais exprès de ne pas nommer un seul des noms propres, parce que dans ce cas, il faut nommer les deux, si on pense en termes d'égalité. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a maintenu depuis 200 ans fortement cette représentation du privé et du public, parce que nous héritons de ce qu'il ne faut pas que l'égalité rentre dans la famille. Alors, je vous vois, je vous entends déjà, vous allez penser que je veux que cette transparence, que d'ailleurs, c'est pas le politique et l'égalité des sexes qui sont en train de le produire, hein, c'est juste Big Brother qui nous localise avec tous les éléments possibles en ce moment, mais qui va empêcher cet espace de l'intimité, de l'anonymat. Je sépare bien la question de l'intime et du privé. La question n'est pas de rendre transparent, même si malheureusement les outils d'aujourd'hui vont peut-être le produire, mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que cette construction qu'on a faite du privé et du public, dont on se libère si peu quand on discute entre nous, elle vient en fait de ce qu'il fallait maintenir un mur entre les deux pour qu'il n'y ait pas contamination de l'idée d'égalité. On sait très bien aujourd'hui, et je parle devant grand juriste, que les lois d'égalité de la famille sont extrêmement récentes. C'est ces 30 dernières années. Les partages de l'autorité parentale, la question de la transmission du nom, la question des transmissions pour les enfants, etc. Les représentations de l'égalité dans cet espace-là, c'est deux siècles de travail. On a commencé par le civil, les droits civils, puis les droits politiques, puis les droits familiaux pour produire de l'égalité. Ça, c'est pas seulement ça ma représentation de l'égalité, mais c'est juste pour vous dire que aussi bien nature sociale que privé public doivent être des choses qui ne sont pas des évidences. C'est là où il y a des filtres pour nous empêcher de penser à cette grande difficulté d'introduire cette question sexe-genre, rapports sociaux, trans, queer, tout ce qu'on veut, dans un espace qui fait histoire. Car j'en viens au point qui a, je crois, animé ma recherche, c'était de choisir de travailler sur le discours de l'émancipation et non pas de choisir de faire l'analyse de la domination. Vous disiez tout à l'heure, sous genre, on va retrouver femme. Moi, ce qui m'embête, c'est que dans toutes ces recherches, la fascination pour l'analyse de la domination est quand même un problème. On préfère indiquer la domination, analyser la domination, et c'est important de le faire, bien entendu. Mais ça s'est fait, j'ai fini par faire ce bilan, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque moi j'avais choisi de travailler sur l'émancipation depuis le début. Et notamment, on avait fondé avec Jacques Rancière une revue en 1975 qui s'appelait Les Révoltes Logiques, centre de recherche sur les idéologies de la révolte, une revue qui a bien duré une bonne dizaine d'années. C'est que cette idée que ce qu'il faut, c'est absolument analyser la domination, se fait au détriment d'une analyse de l'émancipation. Alors pourquoi au détriment de l'analyse de l'émancipation ? Dans les quelques minutes qui me restent, je vais vous dire ce que ça a donné pour moi. C'est que, au fond, à partir de là, peut-être que la discussion sans fin qu'a pris des formes différentes ces 40 dernières années pour savoir si on était différentialiste ou essentialiste, universaliste ou différentialiste. Si on était de ce côté-ci ou de ce côté-là, et aujourd'hui, ça serait aussi la question, avec toujours la question bien sûr très importante, des identités qui se jouaient derrière, sexuelles, et de la reconnaissance de ces identités, et de savoir si la reconnaissance de ces identités sexuelles, dans leur multiplicité, pouvait avoir des effets sur la société. En gros, si on transforme notre représentation des sexualités, dans la multiplicité qu'on nous offre aujourd'hui, y compris dans les sciences biologiques, de reconnaître que c'est pas si simple de dire un homme, une femme, que tout ça est beaucoup plus compliqué, et c'est vraiment fort intéressant. La question est de savoir si ça va, quels effets ça a dans le réel, autre que dans le réel individuel, catégoriel, d'une identité singulière ou d'une identité collective. En gros, est-ce que la question de la transformation des possibles identités sexuelles va avoir un effet sur l'inégalité professionnelle, pour être un peu prosaïque et vulgaire? Ça, c'est une question vraiment très importante. Ça veut dire qu'on s'aperçoit que, entre la question des identités et la question des rapports d'inégalité, donc de ce qui fait rapport, pas de ce qui fait identité, mais de ce qui fait rapport, nous avons deux axes parallèles qui parfois se croisent et parfois se décroisent pour ce qui serait de l'ordre de l'émancipation. Alors, j'ai décidé il y a très très longtemps que j'allais pas répondre à la question « Est-ce que t'es pour ou contre la différence ? Est-ce que t'es pour, ou contre l'universel ou le différentiel ?» Que ces questions-là, j'arrivais pas à en faire un travail. Donc rapidement, j'ai proposé deux choses, et puis j'ai passé à des questions. Les deux choses que j'ai répondu, c'est un, c'est une situation aporétique. Deux, la différence des sexes ou la dualité des sexes, c'est une catégorie vide. C'est-à-dire, il y a effectivement un courant philosophique qui voudrait dissoudre la catégorie. Je me pose la question du réel par rapport à cela, c'est-à-dire de l'empiricité de la différence, non pas du réel au sens où on la validerait comme réalité, mais parce que l'empiricité sociale et politique nous oblige à travailler aussi avec cette catégorie. Mais pour moi, elle est vide. Elle est sans contenu, ni de masculin, ni de féminin, ni de ceci, ni de cela, etc. Mais elle fonctionne comme catégorie dans l'histoire. Donc, j'ai fait cette réponse-là. Ensuite, je suis passée à un deuxième type de proposition, qui est de voir que finalement, la démocratie m'apprenait une chose quand je travaillais sur tous les deux siècles passés, c'est qu'il y avait vraiment ces deux concepts clés de la démocratie, à savoir l'égalité et la liberté, et que c'est à partir de l'égalité et de la liberté que se jouaient ces affaires de différence, pas différence, catégorie, dissolution de la catégorie, etc. Qu'à partir de là, j'avais plus besoin de m'en tenir à ces questions de définition, je les abandonnais, mais en revanche, j'avais des tas de questions à poser. Et j'avais commencé, en fait, dès les années 70. Par exemple, je vais vous donner deux exemples, faciles peut-être, enfin trois. La première, c'était par exemple quand j'ai écrit mon livre sur le service domestique, à la fin des années 70, qui n'était pas mon premier texte, puisqu'on était dans cette revue, au temps moderne, etc. aussi, on écrivait beaucoup. Là, je mets un « on » parce que c'était aussi un pluriel. Cette époque était sous le signe des grands collectifs multiples. Et la question que je m'étais posée, j'ai voulu faire ce livre sur le service et non pas sur le travail domestique. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des féministes qui disaient halte au service à l'intérieur de la famille, halte au travail ménager gratuit. On est exploité parce qu'on n'est pas payé pour ce travail. On fait gratuitement, toute seule, ce qu'est un travail qui peut être quantifié du point de vue des analyses marxistes d'ailleurs, de l'économie, etc. etc. Donc, le privé est politique. Et il était politique du point de vue du travail domestique. Et de l'autre, dans l'extrême gauche aussi, il y avait l'idée qui était une vieille histoire depuis le 19e siècle, à savoir qu'il y a les bourgeois, les féministes bourgeois et le féminisme ouvrier. Aujourd'hui, on a de nouveau des clivages qui sont des clivages sociaux de classe à l'intérieur du féminisme, qui se passe sous la forme de la question de la religion, mais qui sont des questions de classe, bien entendu, c'est-à-dire d'inégalité sociale. Alors, et il y avait donc l'idée qu'il y avait, le féminisme ne pouvait pas ne pas tenir compte de ces différences de classe à l'intérieur de la classe des femmes, comme on le disait. Et je me suis dit, mais entre les deux, il y a une chose, c'est qu'il y a 1 million de femmes à l'époque, je crois c'était, qui travaillent à l'intérieur, dans le privé, et qui sont salariées. Alors, c'est une question qui avait été posée, que j'avais rencontrée dans les congrès féministes de 1900. Les féministes s'étaient déjà posé la question, on s'émancipe, mais on s'émancipe comment ? Quel est l'emboîtement des hiérarchies ? Et évidemment, la question d'avoir à son service, surtout avec la domesticité des années 1900, on imagine. Donc, cette question avait été structurellement posée. Donc, je me suis dit, plutôt que d'être là à vouloir camper sur une position politique ou une autre, je peux extraire du débat une question philosophique. Qu'est-ce que le service en temps démocratique ? On le retrouve, alors c'est redevenu central, alors que je pensais qu'au fond ça ne l'était plus quand j'ai fait ce livre, avec le débat sur le Caire. D'où on a réédité mon livre en 2010, qui s'appelle désormais « Service ou servitude », qui était là-dessus. Mais moi, c'était vraiment le concept de service. Donc je pouvais abandonner ce que je définirais comme sexe, genre, ceci, cela, parce que je cherchais quelle était la question qui me permettrait de réfléchir à un débat posé par le féminisme. 20 ans plus tard, j'ai eu la même chose avec deux questions qui se posaient en même temps et qui reviennent aujourd'hui, toujours, qui étaient foulard d'un côté, je préfère dire toujours foulard à voile, et prostitution de l'autre. Et il y avait ce débat qu'on avait dans les années 90, rappelez-vous, en même temps qu'on avait su sur le Pax et la parité, et je me suis dit, mais finalement, il y a un point commun à ces deux questions qui ne semblent pas en avoir, à part le fait que d'un côté on se couvre et de l'autre côté on se découvre. Mais ça, c'est bon, c'est pas inintéressant hein, sur cette question, la question du corps. Mais ça pourrait faire encore un débat philosophique. Mais moi, j'ai trouvé une question qui était posée par ces deux choses, où il fallait dire est-ce que tu es pour ou tu es contre, etc., etc. D'ailleurs, j'étais il y a un mois ici à Montpellier pour le débat sur la prostitution dans le forum Libé, entière. C'est-à-dire, il y avait Oser le féminisme et le Strass, et moi j'étais entière pour poser quoi ? Notamment une question que j'ai élaborée à travers tout ça, qui était celle du consentement. Donc, du coup, j'ai fait un livre sur le consentement. Qu'est-ce que c'est que le consentement ? Alors, dans ce cas, moi, comme je ne sais pas répondre, et que ça m'intéresse plus d'aller chercher ce qu'est que le consentement plutôt que de savoir si je suis pour ou contre la prostitution, pour ou contre le port du foulard, etc., c'est que le consentement, c'est une chose très, très compliquée depuis 3 siècles. Donc, je fais toujours un travail de généalogiste dans ce cas-là, parce que ça m'aide. C'est à la fois choisir et accepter. C'est à la fois vouloir et n'en pouvoir mais, quoi. Donc, je me suis dit, ben voilà, je peux élaborer un mot qui fait concept. Et on est parti du concept de genre, je vais bientôt m'arrêter là pour vous laisser la parole, mais on part du concept de genre, qu'on voit comment on fait par rapport à sexe, etc. On passe par des questions épistémologiques et méthodologiques, et moi je vous offre pour finir ma propre méthode philosophique. Donc mon objectif philosophique, c'est l'historicité, c'est clair. Et ma méthode philosophique, c'est de chercher ce qui fait qu'on... Ce qui, de la tradition philosophique, ou de la tradition de la langue même tout court, parce que ni service ni consentement ne sont des termes qui ont des grandes entrées dans les dictionnaires philosophiques. Ils peuvent être de biais rencontrés, mais bon. Et de voir si je peux penser cette question, sexe-genre dans l'histoire, à partir de termes que je vais faire sortir des questions que je me pose. C'est comme ça aussi que j'avais créé, alors ce qui est un double terme, la démocratie exclusive, quand j'avais écrit « Muse de la raison », c'était au moment du bicentenaire d'ailleurs, et je voulais comprendre quelque chose de très important et qui reste à vif, qui est que au moment de cette révolution française, il est clair que très vite les révolutionnaires vont dire, qu'ils soient girondins ou jacobins, les femmes ça suffit, il y a des limites à ne pas franchir. Pas de la même façon les girondins ou les jacobins, Et l'histoire est trop compliquée. Si vous prenez la figure de l'âme de Gouges, alors là, on est en pleine complication, parce qu'elle est à la fois girondine et radicale dans son féminisme. Mais donc, et il fallait comprendre pourquoi ce mouvement-là devait, de la même façon qu'un Sénancour disait « halte à l'égalité parce que sinon on n'aura plus d'amour et que de l'amitié », il y en a d'autres qui ont fermé les clubs en 93, interdit aux femmes d'aller à l'armée en 93 aussi d'ailleurs, 1700, hein, j'entends, et puis poser la question très claire de « oui mais », quoi. C'est ce que j'ai appelé la démocratie exclusive. « Oui mais ». Oui, bien sûr, la révolution, la démocratie, mais... il y a des barrières, il y a des limites qu'il ne va pas falloir franchir, mesdames. Or, vous les franchissez ou vous ne les franchissez pas. Et au lendemain de la Révolution, on va verrouiller tout, hein, à tout niveau. Aussi bien dans le langage, pour l'accès au savoir que pour la représentation du corps des femmes, etc. Il y a même mille façons de verrouiller. Donc voilà, au fond, à travers cette question là où je suis aussi à côté du genre, hein, c'est pour cette raison-là. C'est ni parce que je suis contre, ni parce que je suis pour, mais c'est juste parce que j'en reconnais l'irruption épistémologique cruciale. Je ne sais pas ce que ça va devenir, mais il se trouve que j'ai proposé, à partir de la question de l'émancipation et des difficultés des discours de l'émancipation, parce qu'au fond, quand on analyse la domination, c'est parce qu'on pense que, et ça peut renvoyer à un héritage de Bourdieu ou à certaines descendances de la sociologie en général, c'est de penser que l'analyse de la domination, ça fait dévoilement. Et qu'en faisant dévoilement, c'est ce qui permet la pratique. Pratique émancipatrice. Or, de cela, je ne suis pas sûre. Et inversement, à l'intérieur des discours de l'émancipation, on trouve de curieuses contradictions. Et c'est ces contradictions à l'intérieur des discours de l'émancipation qui me paraissent devoir être mis sur la table et analysés beaucoup plus qu'ils ne le sont. Ça, c'est aussi une proposition philosophique. Voilà, je crois que j'ai dépassé mon temps. Voilà.
C'était l'Agora des savoirs.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Des conférences ouvertes à tous.
La science est un discours.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM 93.9. Thank you.